Il est musicien, compositeur, il chante, il parle, il est même bavard. J'aime à l'entendre au piano dirigeant de grands orchestres. Michel Legrand nous a déjà offert une centaine de musiques de films. Un jour, on découvrira ses quatuors et ses symphonies. Michel Legrand, inutile de faire les présentations, simplement un rappel. On connaît le chef d'orchestre, on connaît le compositeur de musique de films et de chansons, on sait le producteur de télévision. Maintenant, personne plus n'ignore que vous avez été l'élève de Nadia Boulanger. Vous avez également, après avoir raflé beaucoup de prix, vous avez également fait la preuve qu'on peut avoir aussi des antécédents. Il y a eu votre père, Raymond Legrand. Il y a votre sœur, Christiane Legrand. Vous êtes également, je crois, le neveu de Jacques Ellian. Je veux dire, ça fait beaucoup dans une corbeille. Hein. C'est le berceau très bien décoré, très bien ourlé.
Ah oui, tout à fait. Vous savez, on est né là-dedans, on a vécu là-dedans, on mourra là-dedans et on continuera là-dedans après.
Vous n'auriez jamais pu faire autre chose?
Jamais. Jamais. Absolument jamais. Je m'ennuyais infiniment étant enfant, j'étais tout seul chez moi. Et dès l'âge de 3 ans, 4 ans, il y avait un vieux piano désaccordé qui traînait et je n'étais qu'avec lui, auprès de lui. Je le mangeais, je le suçais, je passais mon temps dans le piano et nulle part ailleurs.
Vous avez composé combien de musiques de films?
Oh, je sais pas, Jacques, mais je sais pas qui. Un copain de province m'a fait un jour une filmographie en détail de courts-métrages et tout. Il est arrivé à 200.
Et combien de chansons?
Oh, ça je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je feuilletais Boris Vian hier. Ils ont édité tous ces textes. Il arrivait à je sais pas combien de centaines. Moi, je sais pas du tout. Alors, j'ai pas idée. Peut-être autant.
Michel Legrand, je fais tout ce calcul. Je fais toute cette somme parce que on peut dire que là, il n'y a que des succès. Il n'y a que des réussites, et je dirais même que, en certains cas, par rapport à certaines musiques, par rapport à certains interprètes, il n'y a que des triomphes. Et à côté, vous avez fait du cinéma, et c'est un échec.
Oui, mais vous savez, dans la musique de film, il n'y a pas que des succès, Jacques, il y a des échecs.
Oui, mais vous ne les avez pas supportés. Parce que c'est le metteur en scène qui peut supporter l'échec d'un film. Mais cette fois-ci, vous êtes devenu le metteur en scène.
Bien sûr, mais avant la mise en scène... Voilà, moi j'ai une façon de vivre qui m'est indispensable. Je ne peux rien jouer à coup sûr. C'est-à-dire que lorsqu'un metteur en scène me dit « voilà, je voudrais faire une musique comme ça », eh bien, quand je travaille sur son film, que je vois son film, j'ai naturellement, de par ma nature même, envie d'essayer des choses nouvelles. Alors j'essaye de lui en parler, mais les mots sont difficiles pour expliquer de la musique. Alors j'écris un score, j'écris une musique, et tout à coup c'est tellement... osé ou différent ou inattendu pour lui ou un peu étonnant ou surprenant, que plusieurs fois, je dirais pas souvent, mais un bon nombre de fois, les producteurs metteurs en scène m'ont dit non, ça ne va pas, et ma musique restait dans la salle de montage, par terre, et c'était un autre qui en faisait la musique. Donc, je veux dire, je joue toujours ma vie. Voilà, lorsque je joue à la belote, avec des camarades, je m'amuse pas, je travaille, je joue ma vie à la belote. Quand je joue aux échecs, je joue ma vie aux échecs. Quand je marche, à chaque instant, je ne joue jamais rien légèrement. Mais je suis un être heureux et léger de nature. Mais tout ce que je fais, c'est ma vie, c'est la mort qui se présente toujours. Or, un échec, un échec ou un succès sont pour moi des pôles qui me sont, hélas, indispensables. Parce que je pourrais jouer plus facilement, mais je ne peux pas, je ne le veux pas, c'est malgré moi, même si ma lâcheté, ma facilité, ma faiblesse me disent de temps en temps, allez vas-y, recommence, tu te rappelles de ça, je ne peux pas. Et j'ai chez moi par exemple des cahiers de thèmes inutilisés, j'ai des choses très épaisses, des partitions énormes. Quand je fais la musique de quelque chose, je cherche le thème principal, l'ossature, je cherche la colonne vertébrale, alors je procède par élimination, il n'y a que comme ça que je peux travailler, c'est-à-dire que j'en écris 30. Et puis, de jour après jour, il n'en restera plus que 5, 4, 3, 2, puis un restera. Et les 29 autres, je les mets quelque part. Un jour, ils serviront. Jamais. Ils n'ont jamais servi.
Oui, mais Michel Legrand, cette fois-ci, vous exploriez, et d'une manière complète, un monde différent.
Tout à fait. Vous étiez
auteur.
Tout à fait. Je débute.
Vous étiez metteur en scène.
Tout à fait.
Et c'était 5 jours en juin. Oui. Et vous n'êtes pas, ou vous n'avez pas le résultat que vous attendiez. Alors, les autres échecs, à mon avis, et je vous connais bien, ont moins d'importance que celui-ci. De cet échec-là, vous souffrez.
Oui, vous savez, on est toujours...
Je ne parle pas d'argent, non, puisque vous avez beaucoup investi et que, forcément, vous avez pu perdre. Remarquez, hier, je recevais Jean-Jacques Benex. Oui. Vous savez que Diva était un échec.
Oui.
Et puis, quelques mois après, enfin un an après, disons, ce fut un triomphe. Oui, alors, on peut rêver pour 5 jours en juin.
Oui, vous savez, je n'y crois pas du tout. Je n'y compte pas.
Lucide.
Oui. Vous savez, il faut... C'est très mystérieux, le cinéma. Je vais voir des films que j'adore, qui marchent pas ou pas bien ou pas assez. Je vais voir des choses que je déteste, qui font des gros succès, enfin, que je n'aime pas. Bon, ceci est très mystérieux. On ne sait pas pourquoi les gens vont voir ci plutôt que ça, plutôt que su. Mais finalement, peu importe. Après, il n'y a pas de constat à faire. Après, je crois qu'on a fait exactement ce qu'on avait envie de faire, comme j'ai fait. On a donné son sens, sa sueur, son temps... Avec une telle honnêteté, avec un tel amour. Moi, je sais que j'ai passé un an sur ce film, un an de bonheur, avec des comédiens, des comédiennes, avec des techniciens, avec des gens qui écrivent, qui chantent, qui parlent, qui dansent, qui machinent des grues. Et ça a été un an où j'ai tout appris. J'ai vraiment appris beaucoup et j'ai appris dans le bonheur. Alors, ce bonheur-là, je le paye et peut-être je le paye très cher. Et c'est vrai que j'aurais aimé que mon film soit aimé, mais on fait des enfants quelquefois qui ne plaisent pas du tout, qui sont pourtant charmants. Moi, je crois que cet enfant, je lis tendre. Enfin, et puis, je l'avais vraiment fait avec beaucoup de simplicité et je vais même dire avec un visage naïf, avec un visage d'adolescent, avec...
Ouais, d'enfant.
Oui, c'est ça. Vous avez vu le film, Jacques. C'est une innocence, quoi. C'est-à-dire qu'on expose une innocence.
Et il y avait nécessité immédiate de faire ce film, d'ailleurs, de l'écrire, de le mettre en scène...
Oui.
Et de revenir à cette adolescence, parce que 5 jours en juin, ça vous touche de très près, c'est vous.
Tout à fait, c'est moi. Et j'ai même hésité longtemps, puis finalement j'ai même mis mon nom sur le jeune comédien qui joue.
Oui.
Au lieu de l'appeler du genou et que...
Vous l'avez appelé Michel Legrand.
Oui, tout à fait. Or, j'ai voulu faire comme ça. Et j'avais besoin de ça. J'avais surtout besoin de sortir de moi. Il fallait que d'une manière ou d'une autre, j'ai un autre langage. Il fallait être meilleur que j'ai un autre outil, que j'ai une autre manière de parler. Vous savez, quand on fait, je dirais pas la même chose très longtemps, on finit par se faire peur. On finit par avoir peur de se ressembler, avoir peur de radoter. Car on radote souvent en création. Et alors, c'est embêtant lorsqu'on a fait trop. Alors, il fallait... Stravinsky disait une place fraîche sur l'oreiller. Mais trouver une place fraîche sur l'oreiller, il le faut. Et moi, il me le faut tout le temps. Et tout à coup, à cet âge de ma vie, j'avais envie de retourner en arrière, chose que je ne fais jamais. Et je voulais non pas retourner comme ça, avec la nostalgie simplement de la mémoire et du souvenir, mais de le voir, de revoir ce voyage qui a été pour moi si important. Voilà.
Mais vous ne pensez pas, Michel Legrand, qu'il y a aussi une vanité de l'échec, comme vous avez tout réussi, comme il y a toutes ces musiques, comme vous êtes aussi connu en Union soviétique qu'aux États-Unis. Hein, il y avait peut-être cette nécessité de dire « il me faut maintenant ce petit échec pour contrebalancer mon succès ». C'est vraiment la plus exceptionnelle vanité.
Oui, je ne sais pas, je m'en rends pas.
Non, vous n'avez pas voulu votre échec, mais dans votre inconscient, peut-être.
Je ne sais pas, vous savez...
Ça fait bien après de dire « moi aussi j'ai eu des échecs ». On ne peut le dire que lorsqu'on a réussi, ça.
Oh non, je m'en serais bien, je m'en serais très volontiers passé, je vous jure. Oui. Non, je ne crois pas. Vous savez, ce qu'il y a dans le subconscient, l'inconscient, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout, puisqu'on n'en a pas conscience.
Oui.
Ça n'a donc pour toi.
Alors, on revient un tout petit peu aux réussites, parce que quand même, il y a les premières musiques.
Oui.
Nous avons fait une expérience tous les deux à l'Union soviétique, puisque je me suis fait le bonheur de vous entraîner là-bas.
Oui.
Et j'ai été frappé, par exemple, d'apprendre ce que je ne savais pas. C'est vous qui avez exporté ce fameux air que vous allez me jouer un tout petit peu, là, et que l'on reconnaît tout de suite. Le temps du muguet.
Oui, que je trouvais tellement joli. La fin des phrases musicales russes, c'est... On passe de la septième à la tonique, ce qu'on ne fait jamais dans aucune musique occidentale. Bam, bam, bam. Il n'y a aucune chanson française ou occidentale qui fait comme ça, ou bien... dans tout le folklore russe, on retrouve ça. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment bouleversé. Je veux dire, j'étais tellement joyeux, tellement heureux, que je l'ai pris sous mon aile et je l'ai ramené.
Il y a une trentaine d'années.
Écoutez, ne cachons rien. On ne sait plus quel âge on a, parce que ça change tout le temps. Donc, mais c'était en 1957.
Ouais. Et j'ai été frappé également par cette connaissance que les Russes ont du cinéma, d'abord, de ce que vous avez fait. Et c'est vrai qu'ils vous connaissent beaucoup, je dois le dire, à cause des Parapluies de Cherbourg,
oui,
des Demoiselles de Rochefort.
De Podane, oui, ils ont vu les films musicaux qu'on a fait avec Demi.
Et tous vous disaient... Jouez-nous, oui, oui. Vous vous rappelez dans les studios de la télévision soviétique,
oui, oui, oui.
Jouez-nous un peu oui, oui. Les Demoiselles de Rochefort,
sûr,
jouez-nous
oui.
un peu
sûr, oui,
les Parapluies de Cherbourg, jouez-moi un peu, Michel Legrand. Voilà un vrai succès.
Oui, c'est vraiment, oui.
On peut le prévoir, un succès comme celui-là, lorsqu'on écrit la musique sur le papier.
Oh, mais alors, pas du tout. Et même, je veux dire, ce thème, je l'ai écrit, je m'en rappelle très, très bien encore. J'étais un jour, comme ça, un après-midi d'ennui, quelque part, dans le sud de la France, je savais pas quoi faire, j'étais tout seul. Je me mets au piano et en pensant, je veux dire, en rêvassant vaguement à quelque chose, j'ai écrit ça, même pas sur un papier, sur un magnétophone qui traînait près du piano, comme ça. Et je pensais pas l'utiliser pour les parapluies. Et tout à coup, l'association se fait, je dis, tiens, je vais faire ça. Par exemple, la même association qui est arrivée lorsque j'ai une commande à Lyon pour écrire un ouvrage. Lyrique, là, il y a 15 jours, et je ne savais pas quoi écrire. Et tout à coup, je me dis, mais...
Pour le bicentenaire ?
Oui, c'est ça, pour le bicentenaire. Oui, alors, donc, j'avais l'orchestre de Lyon, j'avais les chœurs de Lyon, riche avec Richard, le directeur, Richard Cœur de Lyon. J'avais, je ne sais pas, j'avais des solistes, ce que je voulais. J'avais dit, écoutez, alors, dans mon rêve lyrique, j'avais dit, je veux deux pianos solo, de solistes. J'avais demandé Eric Berchaud, qui m'avait dit oui, tout ça. Et alors, me voilà donc avec une pâte formidable, je ne sais pas quoi faire. Et je me dis, les chœurs, ils ne vont pas faire, ah, oh, je déteste ça, il faut que. Il faut donc un texte. Alors, et j'adore ces situations-là, car c'est l'absurde même qui s'offre à vous, par effraction. Mmh. Et alors, je regarde, je cherche, et je commence les poètes, puis je vais dans les discours de Victor Hugo un peu plus politiques. Tiens, je cherchais les choses, et puis rien du tout, plus rien. Et tout à coup, traîne sur ma table, illustré par Folon, qui me l'avait envoyé, qui est un ami de toujours, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça traînait depuis, vraiment, je peux dire, 10 jours, comme
oui,
ça.
Illustré par lui.
Oui, illustré par lui. Donc, et alors là, ça traîne. Là, je dis, et tout à coup, plop, et ça, j'adore ça. Et tout à coup, je mets ça en musique. Et ça a été instantané. Et je peux dire, sans rien révéler, que en 4 semaines, je l'ai écrit, moi qui pensais mettre. Et ça, c'est formidable. De même que les choses viennent comme ça. Je peux même dire qu'il doit y avoir autour de nous des gens mystérieux ou des entités, je ne sais pas, appelons ça comme on se voit. On peut toujours rêvasser.
Des signes.
Oui, des signes. Partout. Je peux dire que quelquefois, je me mets au piano, ce n'est pas moi qui compose. Je vous assure que ce n'est pas moi.
C'est l'ange au-dessus de Legrand, Michel.
Oui, il y a tout. Puis tout d'un coup, c'est moche. Et celui qui est derrière moi, il est minable.
Comment est-elle, cette musique Bon, vous ne pouvez pas me la jouer, cette musique de la Déclaration des droits de l'homme.
Non,
vous allez encore me l'improviser.
Ah non, oui, mais je vais vous faire n'importe quoi. Non, ce ne serait pas honnête. Non, parce que là, c'est vraiment une patte difficile. Je veux dire, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas une chanson, c'est vraiment un oratorio comme ça de 45 ans.
Une œuvre de vous restera et s'installera dans le 21e siècle. Bon, le cinéma est en place. Hein.
Oui.
Bon, on ne sait pas ce que deviendront ces films, ou Podane, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg. Mais il y a peut-être une chanson, une musique, parce que vous avez également composé pour de grands orchestres. Vous avez Concerto, Quatuor.
Mais Jacques, alors ça, je vais vous dire quelque chose de vraiment profondément sincère qui vient du fond de moi. Je m'en tamponne. La postérité, je m'en tamponne. C'est-à-dire que ça n'a plus... Lorsque je serai disparu, je n'ai plus aucun lien avec tout cela.
Il vaut mieux d'ailleurs.
C'est préférable. Oui, mais ce n'est pas du tout ce n'est ni une économie, n'est-ce pas, ni une humilité.
Mais une chanson restera peut-être.
Oui, mais ça m'est complètement.
Alors laquelle pourrait rester?
Ça m'est égal. Que vous voulez que Van Gogh n'ait pas vendu une toile de sa vie.
C'est une seule toile. Oui, il en a vendu une.
Oui, mais enfin,
de son vivant.
Oui, mais enfin, coûte 3 francs vraiment, ou 1 franc 40. Non, mais ça sert, c'est rien. C'est
ça rassure pour l'éternité.
Oui, bien sûr. Mais alors, et puis après sa mort, c'est pas la toile la plus chère, les tournesols. ça n'a aucune espèce d'importance pour lui. Il doit, s'il y est encore quelque part, il doit se gausser, il doit se trouler par terre.
Alors, de quelle composition, vous, Michel Legrand, êtes-vous parfaitement heureux ? D'une chanson, peut-être ?
Ben, vous savez, le bonheur, c'est quelque chose qui est variable. Le bonheur, je crois qu'il faut chercher le bonheur en faisant des pas différents. Mais si on marche toujours de la même manière, on va devenir monolithique et un peu ennuyeux. Et je trouve qu'il faut toujours... Alors, moi, j'aime tout. Et c'est mon rêve et c'est un petit peu mon problème. C'est-à-dire que lorsque j'arrive quelque part, on ne sait pas qui je suis vraiment, ni ce que je fais, ni ce que j'ai envie de faire. Bon, mais c'est à la fois aussi ma fuite et ma sauvegarde. C'est-à-dire que je rue un peu comme un cheval, mais dans tous les sens. Et tout à coup, je disparais. Tout à coup, je suis là. Tout à coup, je vais en Russie. Tout à coup, je fais un film. Tout à coup, je fais... Or, bon, ceci, c'est la course, hein, Jacques. Ce n'est rien
un peu désordre.
Oui, ah oui, ah oui. Je dois dire un peu... Oui, fatalement désordre. Bien sûr, désordre, parce qu'on veut trop. Mais c'est désordre, mais c'est aussi la course au bonheur. C'est-à-dire que je ne veux pas... Bon, je ne veux pas me retourner. Benex disait hier à votre émission un truc formidable. Il disait, moi, je fais du cinéma parce que quand je tourne, je m'oublie. J'oublie que j'ai peur, j'oublie que je suis minable, j'oublie que j'ai faim, que j'ai mal, j'oublie que je suis tout seul, j'oublie que j'ai ces problèmes-là, j'oublie. Et tout à coup, on oublie. Eh bien, pourquoi on travaille tous à la même heure ? Pour une raison, plutôt pour deux raisons, je crois. Un, on veut en savoir plus sur soi, parce qu'on est gourmand de soi. Alors, on essaye un petit peu, puis on dit, tiens, là, peut-être, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arriverai à cela ? Peut-être que. Alors, on essaye tout le temps. Et deux, on veut oublier autour. On veut oublier autour. Moi, je sais, par exemple, dans les moments de ma vie les plus dramatiques, les plus douloureux...
Il y a eu des moments dramatiques ?
Ah oui, des moments très, très difficiles, très douloureux.
Mais personnels, alors ?
Bien sûr, personnels. Et alors, à ce moment-là, je peux écrire des partitions les plus drôles, par exemple. J'ai écrit Les Demoiselles de Rochefort, qui est une partition joyeuse. Ba 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 di di ya, ba 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 da 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 da. Ou bien... Ba ba da 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 da. Plein de choses qui sont des espèces de pirouettes
très joyeuses. Et vous étiez très malheureux là.
Oui, tout à fait.
C'était dramatique même, votre situation.
Bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Et par contre, des fois, en plein bonheur, j'écris les choses les plus sinistres.
Lorsque Barbara Streisand, Liza Minnelli, puis les autres vous chantent, c'est parce que vous avez écrit spécialement pour elles, pour eux, ou parce qu'elles ont entendu une musique et elles ont envie de l'interpréter ?
Oui, c'est-à-dire que voilà, la première pièce de Barbara Streisand, qui l'a fait devenir vedette, où elle jouait le rôle principal dans Funny Girl, avait entendu de moi des chansons comme ça, sur des disques qu'on lui avait passés. Et tout à coup, elle avait envie de faire un disque en français. Elle m'appelle, m'a fait appeler. Je vais à New York, je passe 15 jours avec elle. C'est comme ça que je l'ai connue. Donc, vous voyez, c'était quelque chose... Bon, je n'ai pas écrit pour elle. Elle a pris des chansons à moi et on a fait un disque ensemble. Et à chaque fois, ensuite qu'elle a enregistré, car elle est assez formidable, j'ai beaucoup de chance, elle a enregistré pratiquement toutes les chansons de films que j'ai fait pour les États-Unis. Et alors... Mais jamais pour elle, on a fait quelque chose. Mais par contre, si elle me demande quelque chose, je lui ferai par exemple.
Et par exemple quoi ?
Par exemple ceci, on a commencé un album pour elle, qui sera le cycle de la vie d'une femme. La première chanson sera une espèce de petite chanson enfantine, petite comptine. Puis ensuite, elle aura l'enfance, l'adolescence. L'amour, le premier amour, elle se marie, elle devient mère, puis grand-mère, puis femme âgée, puis la dernière chanson, c'est la mort. Et on a envie, avec les Bergman, qui sont mes amis, qui sont les paroliers américains que vous connaissez, d'écrire ça. Et par exemple, donc, son premier amour, la musique fait ça. Oh, ba-ba-di-di-lo-bi-di. Si on écrit pour des gens comme elle, on a la chance d'avoir un instrument fou, quoi. Donc on peut écrire des choses.
Michel Legrand, vous écrivez de quelle manière ? Par exemple, là, je viens d'écouter, on a l'impression que la mélodie est dans votre tête, les paroles n'y sont pas encore. Vous notez sur des bouts de papier, oui. Vous vous levez la nuit pour inscrire des notes ?
Non, je travaille la nuit. Je me lève pas. Je reste éveillé. Je travaille beaucoup le soir. Je trouve que il est presque malsain de travailler quand il fait si beau dehors, qu'il y a tant de choses à voir et à faire. Alors, quand tout le monde fait 11h, minuit, quand tout le monde dort, qu'il ne se passe plus rien, que, alors là, je me mets au travail, là, j'adore. Mais, donc, je travaille beaucoup la nuit. Je travaille pas comme Jean Le Sandre, qui travaille de minuit à 6h30 du matin, mais moi, je commence aussi à minuit, c'est l'heure, tout à coup, j'ai envie de faire des choses. Et je travaille de minuit à 5h, on pourra vraiment appeler.
Mais j'ai compris que la mélodie, on n'est pas responsable de la mélodie qui s'installe.
Oui, vous avez
raison. Elle vient malgré vous.
Oui, elle vient presque.
Et puis, si elle a du succès, on n'y est pour rien.
Rien du tout.
On est quand même au commencement.
Oui, on est peut-être le filtre, on est peut-être le go-between, enfin, le messager.
Parce que l'été 42, c'est une musique qu'on retient.
Oui, c'est drôle parce qu'il y a ces...
C'est le film qui a fait retenir la musique.
Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas du tout parce que c'est très bizarre. C'est très étrange. Oui, le film a été un grand succès à son époque, en 72, je crois.
Quel a été le titre ?
C'était Un été 42. Mais, alors on peut penser que c'est la simplicité de la mélodie. Et peut-être pas, regardez, il y a un film qui a fait, aux États-Unis, qui a fait un flop total qui s'appelait The Happy Ending. Un film de Richard Brooks, un film que j'ai beaucoup aimé. Et dans ce film, avec les Bergman, chanté par Barbara Streisand, on avait fait une chanson qui est inconnue en France, mais qui fait un succès en Amérique beaucoup plus grand encore que l'été 42, c'est ça. Et vous allez voir comme c'est complexe, la musique. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life. That you spend it all with me. All the seasons and the times of your days. Bon, et c'est une chose assez...
Mais c'est devenu célèbre.
Oui, non, mais un petit peu en France, mais en Amérique, c'est un énorme succès. Bon, ici, on ne connaît pas du tout. Bon, mais c'est, alors, je ne sais pas si aux États-Unis... Il y a plein de chansons aux États-Unis qui sont très connues et pas ici. C'est très, très étrange.
Mais celle que vous pouvez retenir, vous ne m'avez pas répondu, Michel Legrand.
Celle que peut retenir, c'est
celle qui est pour vous la plus accomplie, la plus réussie.
Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Celle qui, pour moi, m'enchante le plus, c'est celle qui va venir.
Vous êtes comme l'écrivain qui dit mon meilleur roman, c'est le dernier.
Ben écoutez,
mais enfin, ça ne suffit pas comme explication.
Ben oui, mais on les aime tous pour différentes raisons. Je veux dire, il n'y a pas un qui dit, ça, c'est vraiment une merde, j'ai honte. Pas du tout, mais pas du tout. Il y en a qui sont un peu plus simples, d'autres plus complexes. Il y en a d'autres, on est plus fiers parce qu'ils ont un langage plus dialectique, plus fort. Mais on les aime tous.
Mais la vie que vous avez, c'est celle que vous vous souhaitiez. Bon, vous avez fait tout ce que l'on peut faire dans une carrière comme celle-là, c'est-à-dire de la musique de film, des chansons, de la musique pour des interprètes classiques. Mais peut-être auriez-vous souhaité, mais de votre vivant, je ne pense pas à la postérité, laisser une œuvre plus haute qui est plutôt jouée dans les salles de concert, à l'opéra, que dans les music-halls.
Oui, j'y pense, mais j'y pense physiquement.
Ça veut dire quoi, j'y pense physiquement ?
Ça veut dire que tant que j'ai encore une folle énergie et une espèce de grand besoin de hurler partout, de courir partout, je vais en profiter. Puis peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans.
100 ans.
100 ans.
Oui.
Ça s'entend lorsque peut-être je commencerai à être plus âgé, plus, alors je pourrai plus calme. Alors en ce moment, je mettrai plus facilement devant un bureau et je passerai peut-être 50 ou 100 ou 200 ans encore à écrire peut-être une œuvre, mais je ne suis pas sûr du tout.
C'est l'une des plus belles explications de la folie, ce que vous venez de dire là.
Peut-être.
La folie qu'il faut avoir.
Oui.
D'ailleurs, le contraire de la sagesse. On parlait de Nadia Boulanger. Je ne sais pas si elle disait, elle, que vous aviez trop de talent et que vous aviez tendance à vous disperser, parce que c'est vrai.
Si.
Elle le disait déjà.
Ah oui, elle le disait déjà. Et puis, moi, j'adorais déjà la musique de jazz et puis les choses comme ça. Mais ne perds pas ton temps avec ces musiques à trois accords. J'aurais honte de toi. Et puis, et je me souviens de son vivant. Je venais à peine de quitter la classe. J'avais fait pour le prince et la princesse de Monaco un spectacle qui était monté par Gene Kelly. Et Gene était venu avec des danseurs américains, et moi j'étais donc au piano avec un orchestre, et on avait monté ensemble, en une semaine, une espèce de spectacle sur l'histoire de la danse aux États-Unis. Et Nadia Boulanger était donc dans le public, aux côtés du prince et de la princesse. Je ne savais pas, j'en savais rien. Et moi, je faisais des choses, mes pirouettes et mes choses, on jouait du jazz à l'ancienne, aujourd'hui, tout ça. Et tout à coup, je reçois un petit mot de Nadia Boulanger, une convocation, pardonnez-moi, j'en pas un mot. Mon cher Michel, venez, nous vous attendons. Et tout à coup, je tombe. Alors, je lui ai dit, mademoiselle, mais vous n'allez pas me disputer, vous n'avez pas honte de moi, de ce que je fais. Alors, elle m'a embrassé, elle m'a dit, non, viens, il faut que je te parle, il faut que je te dise quand même des choses. Mais j'avais vraiment le trac à ce moment-là.
Et vous avez commencé à l'âge de 4 ans.
Oui.
Très tôt.
Oh, oui, très, très tôt. Ben, oui, vous savez.
Ça n'est pas un peu trop tôt.
Non.
Un enfant qui s'installe comme ça dans un clavier, quoique.
Non, c'est jamais
il
trop.
Il paraît que les professeurs disent, lorsque l'enfant s'installe devant le piano, la manière de s'asseoir sur le tabouret, la manière de conduire ses mains sur le clavier, on peut dessiner déjà son parcours. C'est
non,
vrai,
pas
ça
du, pas du tout. Moi, je n'y crois pas.
Ah, j'ai entendu les professeurs.
Oui, très bien, bon, on va en changer.
Ah, vous n'y croyez pas?
Pas du tout, non. Non, pas du tout, non. Non, parce que. Non, écoutez, il y a une raison très simple qui me vient à l'esprit. Il y a des pianistes qui jouent comme ça, les doigts en l'air, d'autres qui jouent les doigts raccourcis, d'autres qui jouent comme ça, tordus. Glenn Gould, il joue assis par terre, d'autres, ils se jouent debout. Enfin, or, ça n'a aucune espèce.
Toutes les positions.
Oui, tout à fait. Donc,
le jazz, vous êtes capable aussi de l'apprécier de différentes manières. Vous pouvez jouer selon tous les styles. Bon, il y a d'abord le style, le vôtre, Michel Legrand, mais vous pouvez jouer vraiment. Essayez de me faire une démonstration.
Ah bah c'est,
et vous m'inventez vos pianistes
c'est
préférés.
Difficile, c'est difficile, mais bon, si je prends un thème des Parapluies de Cherbourg, à moi, c'est. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Bon, alors si on s'amuse à imaginer que Arte Tum, par exemple, un des pionniers, il le jouerait peut-être comme ça. Bon, puis après, si on pense que Duke Ellington jouerait comme ça. Errol Garner venait et jouait. Bon, on peut s'amuser.
Face Waller.
Oui, Face Waller, c'est un petit peu comme Arte Tum. C'est un peu. C'est comme ça, des grands traits techniques. Il a la mélodie qui se promène
Oscar
au milieu.
Oscar Peterson.
Ah oui, alors lui, c'est. Ce sont les traits techniques les plus rapides, je dirais.
Mais Michel Legrand, toute votre vie, vous avez souhaité vous insérer dans les disciplines les plus opposées.
Oui,
presque
ça,
pour provoquer et pour vous mettre en péril.
Tout à fait. Je crois que la vie est magnifique et embêtante lorsqu'on est en danger, quand on est en danger. C'est-à-dire que si on routine, si on se laisse aller, si on se laisse dans le courant, on n'est plus en danger et puis on n'est plus bien. Alors j'aime mieux aller à la pêche, j'aime mieux me promener. Être en danger, c'est une chose formidable, folle. Et puis, alors on se met en danger, bon, et puis on subit on a des échecs, ça fait mal, parce qu'on est peureux, alors on se met en danger pour aller au-delà de sa peur.
Moi, je vous ai entendu jouer du Bach avec d'autres pianistes lorsque
on
vous installe à quatre pianos. Oui. Alors, vous choisissez quel pianiste dans ces cas-là? Il y a forcément Jean-Philippe Collard.
Oui, on a joué avec Jean-Philippe Collard. On a joué avec Éric Berchaud. On a joué avec Duchâble.
François-René Duchâble.
Beaucoup, oui.
Vous êtes déjà quatre, là.
Oui, bien sûr. Oui. On a fait toute une série de concerts ensemble qu'on va recommencer. Car c'est aussi un des bonheurs de la musique.
Mais on peut croire à quelqu'un qui, faisant ce qu'il fait, c'est-à-dire travaillant, je ne dirais pas léger, mais travaillant sur un mode un peu moins grave que la musique classique, vient ensuite donner un récital. On y croit, cet homme-là, qui peut passer du jazz au classique?
Écoutez, oui, je crois que c'est possible.
Non, nous, on y croit.
Oui, bien sûr.
Nous, si, à condition. Oui, mais le public, un certain public,
public
qui veut à tout prix s'installer dans une habitude,
oui.
Ou peut-être protéger une pureté, ce qui est bien d'ailleurs.
Je ne sais pas, moi j'y crois tout à fait. Mais par exemple, regardez, pour 5 jours en juin, les critiques n'ont pas aimé Et c'est, je l'ai lu 12 fois, comme qu'un musicien vienne piétiner les plates-bandes de la mise en scène, qu'il reste à sa place.
Bon, même ah, si... il y a les étiquettes.
Ah oui, mais ça...
On n'a pas le droit de changer de salle d'école.
Et je me demande, à la limite, si un certain public, comme vous disiez tout à l'heure, Jacques, n'a pas non plus refusé de venir voir. Qu'est-ce que c'est que le grand... Mais c'est pas un musicien. C'est... Et puis, il passe à côté sans entrer. Je ne sais pas.
En tout cas, La blessure, c'est quand même 5 jours en juin. C'est votre film.
Oui,
Si je la devine.
Bah, bien sûr,
Je ne m'en étais pas aperçu. Je pensais qu'il y aurait un succès.
Je ne sais pas du tout.
Déjà d'amitié.
Oui, moi je pensais...
Un succès de tendresse, de mélancolie. Oui. Bon, vous n'aviez pas tenté de composer un chef-d'œuvre.
Pas du tout.
Vous faisiez vos classes.
C'était une chronique très simple. Je faisais mes classes.
Oui, mais a-t-on le droit de faire ses classes au cinéma?
Écoutez, il faut bien les faire, Jacques. Enfin, il faut bien les faire quelque part. Il faut bien commencer.
Mais alors, à ce moment-là, Michel Legrand, faites-vous assistant d'un grand metteur en scène. Ayez toute l'humilité.
Mais on n'apprend rien étant assistant. On n'apprend rien, vous le savez. On n'apprend rien. Qu'est-ce qu'on fait, assistant? On va chercher les sandwichs ou on regarde. On ne participe pas. Et moi, je souffre. Par exemple, il m'est arrivé... J'étais assistant pendant 20 ans de ma vie au cinéma. Car j'avais chez moi les films... J'avais une copie du film sur ma Moriton et je regardais les films en avant, en arrière, en long, en large. Et je disais, mais comment il a mis ça en scène? Mais c'est pas bien, mais j'aurais fait autrement. Je coupais les films. Alors je disais, allô, dis donc, j'ai une idée, j'ai fait une coupure dans ton film. Et je leur disais, mais tu veux pas rester à ta place? Donc, qu'est-ce que tu viens nous emmerder? Fais la musique.
Alors vous avez envie, Michel Legrand, de revenir au cinéma, de faire une deuxième tentative?
Oui.
De vous casser une deuxième fois la figure?
Oui, je suis prêt. Une dent, oui. Ah oui, oui.
Oui.
Ah oui.
Il y a quand même l'amitié qui reste, parce que dans 5 jours en juin, il y a Ray Charles qui chante Michel Legrand. Et au moment où sortait ce film, votre film, à Paris, sortait également Scoop, un film américain, et vous en avez écrit la musique.
Oui, c'est très, très
vous avez
drôle.
Fait un échec, Scoop est une réussite.
Alors, je ne sais pas si c'est une réussite. Non, c'est pas...
Donc, l'ambiguïté.
Oui, mais ce n'est pas une grande réussite.
Non, pas une grande réussite.
Ça marche
non, mais,
un peu. Ouais.
Mais c'est mieux que vous.
Oui, c'est ça. Et au même cinéma.
Oui, mais vous êtes également dans Scoop.
Oui.
Donc il y a réussi.
Je fais dans tous les scoops, c'est ça. Là.
Alors quelle était cette musique? Il y avait une chanson là aussi.
Non, il n'y avait pas de chanson, non. Ça faisait.
Il y a Jacques Demy encore, il y a Montand, il y a Mathilde Amet, il y a cette musique.
Oui, mais le film n'a pas marché non plus.
Non plus.
Non. 3 passes pour le 26, non.
C'est la mauvaise année. C'est la mauvaise saison. Oui. C'est le temps des pluies.
Oui, tout à fait.
Vous savez que c'est une mauvaise saison. Hein,
c'est vrai.
Par rapport au temps.
Tout à fait.
Il y avait une musique pour Montand, là.
Alors, il y avait plein de chansons pour Montand, oui. On avait fait...
Mais des musiques qui peuvent rester.
J'espère, oui. J'espère. Il y avait plein de choses. Une, c'était... Lorsqu'on revient après 20 ans dans le pays de son enfance, les souvenirs d'adolescence sont effacés depuis longtemps. Quand on revient après 20 ans, lorsqu'on revient après 20 ans. Il y avait toute une tâche.
Mais aujourd'hui, Michel Legrand, pour qui aimeriez-vous composer? Vous faites du porte-à-porte, vous allez voir un chanteur en disant j'ai quelque chose pour vous, on vous appelle, ça se passe de quelle manière?
Non, jamais. C'est-à-dire que c'est plutôt fortuit. C'est-à-dire que tout à coup, je rencontre ou je dîne par hasard avec un chanteur, dit tiens, tu n'as pas un truc si, peut-être que pof, on prend rendez-vous, on se voit 3 jours après. Mais vous savez, Jacques, je ne travaille vraiment que sur commande. C'est-à-dire que je suis un vrai travailleur. C'est-à-dire que j'aime ne rien faire du tout, c'est ma vraie nature. Je trouve finalement assez anormal de... Personne ne vous demande rien, vous allez faire des choses. Bon, à quoi bon? Pourquoi faire? Alors vraiment, j'attends vraiment que les gens me demandent des tiens.
Mais on peut avoir une tentation, on peut avoir envie d'écrire pour quelqu'un parce qu'on a entendu sa voix.
Oui, c'est sûr, mais ça reste embryonnaire.
Ça ne va pas plus loin.
Non, on le termine. Moi, je ne le termine pas. Par exemple, tout à coup, j'ai entendu un truc formidable, une diva extraordinaire. Alors, j'ai envie, mais dans les 4 minutes qui suivent, j'ai moins envie.
Mais vous avez envie de quoi? Pour qui, là, aujourd'hui, par exemple? Est-ce qu'il y a un nom qui trotte dans votre tête? Quelqu'un pour qui vous auriez vraiment le bonheur d'écrire?
Oui, c'est Kirite Kanawa.
Ah, bah vous choisissez bien.
Oui, parce qu'on se connaît très bien.
Dame Kirite
Kanawa. Ouais. On se connaît bien. On a fait connaissance. Elle a enregistré une chanson dans un film pour moi, il y a 3 ans, en Angleterre.
Elle chante remarquablement bien Blue Sky, par exemple, en dehors du grand répertoire.
Tout, elle fait tout avec une qualité. C'est vraiment une des plus belles voix que je connaisse. Alors, on a le projet de faire ensemble un disque. Et on s'y prépare, mais elle est très occupée, moi aussi. On le fera avant 10 ans.
En tout cas, là, c'est un avenir qui peut être réalisé.
Oui.
Ça n'est pas une idée en l'air. Ce n'est pas une chanson dans l'air du temps. Une chanson qui restera, à mon avis, c'est Les Moulins de mon cœur.
Vous croyez?
Je ne sais pas, parce qu'elle a d'abord été reprise par beaucoup, partout dans le monde.
Oui. Il y en a plein dans ce cas-là qui ont été reprises, mais peut-être celle-là plus. Oui. Je m'en rends pas compte. C'est pas...
Non, vous pensez peut-être qu'il y en a une autre qui sera mieux reprise que celle-là?
Je ne sais pas. Ça m'est égal. Hein.
Ah oui, vous vous en fichez. Hein.
Ah oui.
Complètement.
Ah oui.
Comment vous m'avez dit tout à l'heure?
On s'en tamponne. J'adore cette expression.
Vous vous en tamponnez, d'accord. Oui.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Lorsque vous êtes seul, Michel Legrand, il vous arrive de revenir à vos débuts, à toutes ces études faites avec Nadia Boulanger et de jouer des œuvres de Mozart, de Bach.
Oui, j'y pense souvent. Je pense souvent à Nadia Boulanger. Je pense souvent à la... J'ai une gratitude extraordinaire à son égard, à l'égard aussi d'Henri Chaland, qui a été un de mes grands professeurs, de Noël Galland, qui ont été les 3 maîtres de ma jeunesse, de ma vie. Et j'y pense souvent. J'y pense souvent comme un témoignage, comme un devoir, comme quelque chose, comme une discipline qu'ils exigent, comme s'ils étaient encore autour de moi, en disant « Mais tu vas te mettre à faire ça, nom de Dieu. Mais tu vas travailler ça. » Et alors, je reprends mes exercices, des gammes, et je relis des Mozart, et je relis des choses qu'on avait fait déjà à la classe. Comme ça, par une espèce de bouffée forte.
Quelle grande dame, Nadia Boulanger.
Et merveille.
Regardez ses élèves. On en parlait l'autre jour avec Émile Naoumoff. Bon, vous, Michel Legrand, mais aussi Astor Piazzolla, cette bandoneon, Léonard Bernstein. Oui. Et je ne cite pas les autres. Tous venaient la voir de toutes les disciplines.
Tout à fait.
Et elle le recevait tous. Elle n'a jamais dit, mais non, jouez-moi d'abord Mozart. Mmh. Pas du tout. Elle parlait de musique.
Oui. Elle parlait pas seulement de musique, elle parlait de la vie.
De la vie, oui, de la vie.
Elle parlait de toute la philosophie de la mort, de comment, quelle attitude prendre, quoi faire, comment être. On apprenait à être.
Alors, entre 1960 et 1966, c'était le temps de la Nouvelle Vague. Enfin, vous avez travaillé avec François Truffaut, avec Jean-Luc Godard, avec Chabrol.
Voilà, on a été deux musiciens à cette époque.
Georges Delerue aussi.
Et moi, on a vraiment, on peut dire tous les deux, musiqué la Nouvelle Vague. Et on a fait un très, très grand nombre de films dans le désordre et souvent pas bien du tout. Mais on a étalé des musiques partout sur toutes les pellicules. Ça, c'était très amusant.
Il y avait même L'Amérique insolite de François Reichenbach.
Oui, ça a été mon premier vraiment film de la Nouvelle Vague.
Il y avait une musique, là. Ça, vous ne vous souvenez pas?
Si.
Ah, si?
Ah oui, il y avait un air qui faisait comme ça. Il y avait les cow-boys qui arrivaient comme ça. Il y avait un grand nombre de gens. Ils arrivaient dans une petite ville américaine et ils chantaient tous unissant. Wambiaï, Willyia, Baba ya ya. Voilà, un air vraiment Far West. Wadiya Baba. Thank you.
Mais Georges Delerue, lui, est resté aux États-Unis.
Oui,
alors que vous, vous étiez également installé à Hollywood.
Oui, c'est ça.
Ça n'a pas marché.
Mais si, mais voilà ce qui s'est passé. Je voulais, après la nouvelle vague, je voulais vraiment changer un petit peu d'atmosphère et je voulais essayer d'exister au cinéma américain. Alors j'ai quitté Paris. Et j'ai quitté Paris, là, c'est comme ça, c'est marrant, parce que Godard m'appelle, et j'étais sur le point de partir, il me dit, écoute, voilà, j'ai un film, je voudrais que tu fasses la musique. Je dis, non, Jean-Luc, écoute, là, vraiment, j'arrête, je pars aux États-Unis, je veux vraiment travailler là-bas. Oh, fais-le, non, fais-le, il insiste beaucoup. Je dis, écoute, d'accord, je fais ta musique, mais ce sera vraiment la dernière fois, d'accord. Et le film, c'était, je crois que c'était Vivre sa vie, ou... Oui, je crois que c'était celui-là. Alors, j'ai fait la musique de Jean-Luc, et puis je pars, et puis... Quand j'ai vu le film, quelques années après, terminé, Jean-Luc avait mis au générique, en scope noir et blanc, un énorme, et pour la dernière fois à Paris, une musique de Michel Legrand. Donc il ne me restait plus qu'à partir. Là. Oui, il m'avait vraiment envoyé, n'est-ce pas, d'un coup de pied au derrière.
Ad patres.
Oui, ad patres. Alors, je suis donc allé aux États-Unis, je suis resté 2 ans et demi, mais je ne peux pas vivre là-bas. Pour moi, c'est impossible. Alors,
vous pouvez y aller souvent.
Oui, c'est ça.
Mais surtout avec l'intention de revenir.
Oui, je ne peux pas rester. Je peux rester là-bas 8 jours, 15 jours, au grand maximum, mais après, je m'ennuie trop fort. Je n'existe pas là-bas. C'est pas pour moi. Je suis un arbre de Paris. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas.
Alors, Michel Legrand, vous parlez de Georges Delerue. Vous connaissez une musique de Georges Delerue dans un film? Vous connaissez les musiques des autres?
Ah oui, par exemple, il a une chanson, genre, qui fait « 3 petites notes de musique, what a diddy petit you diddy », qui est très belle. Why did it do it delay? Why did it delay you delay? Qui est dans la formidable tradition des vraies chansons françaises de sous les ponts de Paris, ou bien à Paris dans chaque foule. Il a sa chanson à ce ton-là tout à fait.
Alors d'autres compositeurs se sont également installés aux États-Unis. Je pense à Michel Magne. Bon. Qui a disparu, à oui. Maurice Jarre.
Maurice Jarre est depuis très très longtemps. Alors c'est très drôle parce que lorsque mon 5 jours en juin sortait, c'était au mois de donc je faisais de la promotion avant, j'en parlais beaucoup, tout ça, je me répandais partout. Et j'étais invité à aller en Amérique du Sud faire un concert au Chili. Et je ne connais pas le Chili, je voulais vraiment y aller. Puis au Guatemala, il y avait 3 concerts à faire formidables. J'avais un contrat avec des gens là-bas, tout à fait charmants et sérieux. Et puis... 10 jours avant, je ne peux pas y aller parce que je ne pouvais pas m'absenter 10 jours en pleine cette période-là. Alors ils me disent, envoyez-moi un remplaçant. Je dis, vraiment ? Mais il y a quelqu'un, n'est-ce pas, un musicien qui fait le même métier que vous et qui pourra prendre votre place. Alors je cherche et tout d'un coup, je pense à Maurice Jarre. Alors c'était formidable parce que j'ai appelé Maurice, qui était un homme tout à fait délicieux. Je dis, écoute, voilà, je suis dans la panade, écoute-moi bien. Est-ce que tu es déjà allé au Chili ? Il me dit non. Je dis, tu veux y aller ? Il me dit, écoute, ça tombe bien, je pensais aller en vacances 10 jours. Je dis, voilà, il est allé me remplacer. Alors, c'est formidable, quand même, d'avoir des amis comme ça, c'est chouette.
Lorsque vous donnez un concert, vous jouez quelles œuvres?
Eh bien, ça dépend des concerts. Hein.
En récital? Seul? En récital? Ou bien alors
piano
vous
seul, je ne fais jamais.
Ah non, donc avec orchestre?
Toujours, oui,
ah
toujours.
Ah bon, donc
oui.
En concert?
Oui, c'est ça. Oui, cela dépend. Si c'est un concert, alors on peut donner des concerts classiques, je donne des concerts... avec grand orchestre, alors qu'ils seront plutôt des concerts de variété où il y a des musiques de films, où il y a des chansons, il y a des choses comme ça, ou bien des concerts de jazz, ou bien des concerts avec un big band. Enfin, j'ai plein de valises, si vous voulez, comme ça. Et j'aime la variété de ces concerts-là, ça m'amuse beaucoup.
Je voudrais voir sur quelle musique vous souhaitez terminer cette conversation.
Je souhaite rien, je souhaite...
Non, vous la souhaitez, vous la choisissez. Est-ce du jazz? Est-ce une musique? Mais une musique de Michel Legrand.
Ah bon?
Oui. Est-ce du jazz? Est-ce une musique inspirée vraiment du grand patrimoine classique? Est-ce du rock? Vous aimez le rock, la musique d'aujourd'hui?
Écoutez, oui et non, parce que c'est tellement rare que le rock soit superbe. Il y a 1 ou 2 Américains qui le font superbe, mais c'est tout. Mais tout le reste, c'est un ersatz.
Tout le reste, c'est amateur.
Oh, c'est pas possible, oui. Et encore,
non, il y a quand même quelques interprètes
oui,
de très grand niveau.
Oui, c'est
de
ça.
Grand... Non.
Oui. Sûr,
autrement, on va dire, Michel Legrand dit toujours « de mon temps ». Non, ça n'est pas vrai.
Non, pas du tout. Mais il y a très peu d'artistes de grand niveau. Par exemple, moi, j'avais une passion pour Marvin Gaye. Par exemple, pour moi, c'était... Et puis, il s'est fait assassiner. Enfin, c'était un grand drame. Il y a très peu. Non, mais quand ils sont formidables, ils sont formidables.
Mais vous aimez Michael Jackson, Prince,
oui,
Madonna?
Yes, oui, non, non, moins Madonna, moins. Mais je trouve que Michael Jackson, par exemple, vient un peu du jazz. C'est-à-dire que ce sont des viennent du rhythm and blues.
Oh, c'est un showman.
Et puis c'est un noir. Et puis c'est un homme qui a cette musique-là dans ses viscères. C'est pas, c'est pas, il y a pas d'artifice. C'est vraiment lui, ça.
Alors, vous choisissez quelle musique là? On va se quitter.
Ben Jacques, on va se quitter.
Bon. Oui, sur je ne sais pas quoi.
Eh ben, on sur du jazz, allez hop.
Ah, vous choisissez, moi je n'ai rien demandé.
Bon, très bien. Eh bien, vous voulez quelque chose de moi, alors, de jazz? Ah,
bah, j'ai dit Michel Legrand.
Très bien, ben, on va prendre, par exemple, l'enregistrement de Miles Davis de La Valse des Lilas. Hein?
C'est bien choisi, très très bien choisi.
Oui, c'est
j'aimerais que vous commenciez. Merci Michel Legrand. Maintenant, comme vous savez, pour les films muets d'autrefois, vous vous installez au piano, ce qui me permettra de dire au revoir. J'espère que votre film « 5 jours en juin » qui n'a pas eu le succès que vous souhaitiez sera présenté bientôt dans les cinémathèques. Ça serait quand même un sacré succès.
Merci.
Merci Michel Legrand.
À bientôt.